partager la bonne parole de Dieu. On croit que le Seigneur a préparé de bonnes choses pour ses enfants. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Amen. Et je me réjouis vraiment de ce programme, de cette journée, ce que les animateurs, les enfants, les jeunes, les ados ont préparé pour cet après-midi. Je crois que sur tout ce qui va être dit, fait, proposé, il va y avoir une grâce de Dieu particulière. Amen. D'une manière ou d'une autre, nous voulons proclamer à notre génération que Dieu nous a donné un sauveur, un seul, unique et merveilleux sauveur en la personne de Jésus-Christ, le ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc on va lire ensemble, si vous le voulez bien, le psaume 1. On va commencer avec le psaume 1. Il n'est pas très long, mais quel programme merveilleux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Voilà, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui trouve son plaisir dans le Seigneur. Et il y a toute une description de prospérité, d'épanouissement, gloire à Dieu, de bonheur et de bénédiction. Alors on va lire maintenant le psaume 150, si vous le voulez bien. Le psaume 150, il est très court lui aussi. Six versets seulement, mais là aussi, quel programme extraordinaire. Le psaume 150, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Gloire à Dieu. Alors je ne vais pas vous apprendre quelque chose d'absolument inédit. Nous venons de lire, il y a un instant, le psaume 1 et le psaume 150. Nous avons lu dans ce merveilleux recueil de chants, d'hymnes et d'expressions bouleversantes souvent, le commencement et la fin. Le psaume 1 et le psaume 150. Le psaume 1, je le disais, quel programme! Dans ce programme, Dieu révèle que sa volonté, c'est que nous soyons heureux. Ça commence par ce mot, et on peut dire en synonyme, béni. Et dans le terme hébreu, il y a la notion d'une personne en marche. En marche. Mon frère, ma sœur, voilà la volonté initiale de Dieu pour toi, c'est que tu sois heureux. Faites-moi un gros amen. Amen. C'est que tu sois béni. Amen. Et c'est que tu sois en marche. Amen. Gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dès le départ, le Seigneur nous révèle les grandes perspectives qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Que Dieu est grand et digne de louange. Et puis nous avons lu le psaume 150. D'ailleurs, dans la deuxième partie de la prédication, je prendrai plus de temps à voir avec vous le contenu de ce psaume. C'est le dernier, c'est la conclusion. La conclusion qui, avec le Seigneur, n'est jamais une fin définitive, parce que avec le Seigneur, on est dans la dimension de l'éternité. Hein. Si vous voulez, c'est la note sur laquelle on reste. On a lu et on termine, on reste sur cette note finale, mais un final qui est éternel, louer l'Éternel. Gloire à Dieu. Voilà. Louer l'Éternel. On reste sur ça. C'est le psaume qui triomphe. Et puis, entre le psaume 1 et le psaume 150, alors moi, j'ai pas le cerveau de certains étudiants ici, mais enfin, je sais qu'il y en a 148 au milieu. Parce que 150 moins 2, ça fait 148. Et les 148 psaumes qui sont pris entre le 1 et le 150, eh bien, c'est le film de la marche chrétienne. Parce que dans ces 148 psaumes au milieu, il y a des mises en situation qui sont d'une diversité incroyable, des contrastes incroyables. Il y a des psaumes merveilleux qui sont comme des sommets spirituels, des envolées spirituelles. Il y a des psaumes absolument sublimes qui expriment des choses difficilement exprimables parce que il y a une intensité, un émerveillement. Et puis, il y a après les hauts et entre plusieurs hauts, pas mal de bas aussi. Il y a des psaumes où, on lit des expressions beaucoup moins enthousiasmantes, beaucoup moins positives. Et ça, ensemble, ça fait la marche chrétienne. Quelqu'un peut-être est, troublé par le fait qu'il constate que sa vie chrétienne est faite de haut et de bas. Ben, j'aimerais te dire que c'est la marche chrétienne. Parce que la marche chrétienne, elle se compose de séquences qui peuvent être très, très diverses et contrastées entre elles. Et oui, moi, quand je me suis converti, il y avait une formule qui était très à la mode à l'époque, et rapidement, je l'ai trouvée un peu bizarre, cette formule, selon laquelle un chrétien triste est un triste chrétien. Alors ça faisait très spirituel, vous savez, de dire un chrétien triste, ça fait un triste chrétien. Eh bien, moi, je dis que non. Parce que un bon chrétien, fidèle, sincère, peut aussi connaître des séquences inconfortables, difficiles. La preuve, on a lu le psaume 1, mais dès le psaume 3, ça ne met pas longtemps, dès le psaume 3, moi je lis ceci, c'est un psaume de David. Ô Éternel, le verset 2, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. On a lu le psaume 1, heureux, béni, l'arbre prospère, plein de fruits, ses racines se désaltèrent avec délectation, ça c'est le psaume 1. Dès le psaume 3, on entend parler d'une multitude d'adversités. Et je dirais ici, de problèmes. Parfois, on a rencontré des bien-aimés qui, en préparant leur baptême, s'imaginaient qu'après le baptême, finis les problèmes. Même si ça rime, ça ne se vérifie pas sur le terrain. Parce qu'après le baptême, tu auras des problèmes. Et très rapidement, le psaume 3, il arrive tout de suite, là, très vite. Très rapidement, tu vas t'apercevoir que dans la marche normale d'un chrétien normal, il va y avoir des problèmes. J'aimerais dire très vite, je m'empresse pour te dire que chaque problème peut devenir une occasion pour toi d'expérimenter la puissance de Dieu. Quand un problème se dresse sur ton chemin, ne vois pas un problème, vois-y une opportunité de Dieu. Une occasion où tu vas, une fois de plus, vivre le miraculeux secours que ton Père Céleste a promis à chacun de ses enfants. Alors bien sûr, nous sommes des êtres émotionnels. Et je comprends David qui, pourtant, j'en parlais il n'y a pas longtemps, courait derrière l'ours et derrière le lion, nous on aurait couru devant, malgré sa bravoure, quand il parle de cette multitude d'adversités, il est complètement bouleversé, désemparé. Il y a un moment, et c'est normal, où ses émotions sont tourneboulées, complètement renversées. Et alors il y a un mot sur lequel j'aimerais attirer votre attention, parce que souvent on passe dessus comme ça. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Et là il y a un mot, pause. Pause. Et je m'aperçois qu'après la pause, au verset suivant, David a changé. Et il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de vivre le psaume 3 ce matin? Est-ce que tu es dans une situation où des circonstances effrayantes te cernent de toutes parts? Est-ce que tu es devant l'obligation de gérer plusieurs problèmes, des paramètres qui t'échappent? Tu as du mal à trouver une solution, tu es désemparé et tu as envie de t'exclamer comme David, mais qu'ils sont nombreux mes problèmes! Le Seigneur t'invite à une pause. Le mot « Selah » en hébreu, qui signifie une pause devant Dieu. Fais une pause devant Dieu. Parce que les pauses que Dieu nous invite à respecter ne sont pas une perte de temps. Je dis même que c'est le contraire. On gagne du temps à faire des pauses devant Dieu. À faire taire les bruits envahissants de nos sentiments, de nos ressentis, de nos pensées, à faire taire et à faire une pause, mais devant Dieu, une pause devant Dieu, sous son regard rassurant, instructif, éclairant, à faire une pause. Moi, je prie pour que quelqu'un ce matin parmi nous expérimente une pause réparatrice sous le regard de Dieu. Fais une pause, mais une pause constructive. Une pause où tu vas disposer tes oreilles à entendre ce que Dieu a à te dire. Parce que ce qu'il a à te dire, c'est la solution à tes problèmes. Et brusquement, David change. Visiblement, sa pause lui a fait du bien. Visiblement, elle a permis à Dieu de rappeler à David les épisodes de l'ours. Alors, là, j'y vais un peu. Ça, c'est la version Tcherkéchian, excusez-moi. J'imagine que pendant cette pause, Dieu a pu dire, « David, rappelle-toi l'ours. Est-ce que je t'ai pas donné les capacités de le frapper ? Et rappelle-toi, le lion, comment tu l'as rattrapé d'abord et tu l'as, par la crinière, renversé comme une crêpe bretonne et tu l'as frappé, rappelle-toi Goliath. » J'imagine que dans cette pause, Dieu a fait un travail intérieur chez David qui était complètement, voyez, désarticulé, et les choses ont repris d'abord une mesure beaucoup plus relative, et la foi de David a été amenée à s'élever au-dessus de tous ces problèmes. Mon frère, ma sœur, rappelle-toi les victoires par lesquelles Dieu a permis que tu passes. Rappelle-toi. Le vieux cantique nous dit, compte les bienfaits de Dieu. Allez, commence cette comptabilité. Tu auras beaucoup de mal à aller jusqu'au bout, mais déjà, commence à compter quelques-uns des bienfaits de Dieu. Rappelle à ta mémoire, souvent défaillante, comment Dieu a pris soin de toi. Comment, dans certaines circonstances tragiques, son amour a été au rendez-vous, sa provision, sa fidélité. Rappelle-toi comment, pendant un culte, à travers un cantique inspiré, Dieu a parlé à ton cœur. Je me souviens d'un épisode, on aurait pu en parler pour bien d'autres, mais un épisode particulièrement difficile par lequel je passais, et j'étais là dans une réunion, et le prédicateur prêchait avec une onction, une liberté, mais moi, j'étais enfoncé dans mes pensées pessimistes, défaitistes, et je tenais un mode de réflexion qui m'emprisonnait et qui me tirait vers le bas. Mais une demi-oreille écoutait les intonations convaincues du prédicateur, et je me disais, il est en forme, hein. Et je lève mes yeux juste 2 secondes pour le regarder. À ce moment-là, son regard croise le mien, son index me pointe et il m'adresse une phrase. Et puis il continue, lui, hein, la prédication. Il ne s'est même pas aperçu de la chose. Et cette phrase a été la clé divine pour me conduire à la victoire. J'aimerais te dire qu'il suffit pour le Seigneur de 2 secondes pour te sortir de ton désarroi. Fais une pause. Laisse-le te parler. Laisse-le te rappeler que jamais il n'a failli, et ainsi il ne faillira jamais. Il est le Dieu fidèle et véritable. Et oui, le psaume 3. Si quelqu'un vit le psaume 3, eh bien, je l'encourage en lui disant que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le recueil s'arrête au psaume 3 pour ta vie. Dieu veut te conduire plus loin, plus loin. Rappelle-toi, jusqu'au psaume 150. On continue notre voyage dans le livre des psaumes et on arrive à un psaume intense, poignant, le psaume 22. Et dans ce psaume 22, qui est un psaume messianique, qui annonce les souffrances du Sauveur, etc., il y a un verset que j'aimerais particulièrement mettre en lumière. Au verset 16, le psalmiste David, le roi David, va dire dans sa prière, « Ma force se dessèche comme l'argile. » Ma force se dessèche comme l'argile. J'aimerais vous parler d'une autre situation par laquelle nous passerons tous, tôt ou tard, et je pense que nous y sommes déjà passés plusieurs fois, c'est un état d'aridité et de sécheresse. Tu sais, quand tu lis ta Bible et qu'elle t'apporte rien en apparence, tu sais, quand tu viens au culte, que tu entends tes frères, tes sœurs chanter les merveilles de Jésus et que toi, tu te sens aride. Et comme tu sais intellectuellement qu'il faut prier, alors tu pries. Et quand tu pries, il se passe rien. C'est l'aridité, c'est la sécheresse. Ce qui ne veut pas dire qu'on est des mauvais chrétiens. Ça veut tout simplement dire qu'on est en train de vivre le psaume 22. On vit le psaume 22. Une séquence d'aridité. J'aimerais dire aussi que l'assèchement fait partie des stratégies les plus redoutables de notre adversaire. Notre Dieu nous donne des torrents d'eau vive, le diable fera tout pour provoquer en nous la sécheresse, l'aridité. Les exemples sont nombreux. Celui des Philistins qui, avec une ruse diabolique, ont comblé de poussière et de pierre l'héritage qu'Isaac avait reçu de son père Abraham, de toutes les sources, les puits, parce que surtout dans ces contrées désertiques, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Les Philistins ont comblé de poussière et de pierre toutes ces sources. Mais la foi d'Isaac lui a donné la capacité de dire non à la fatalité et de réagir. Il a creusé, récupéré le contact avec l'eau parce que il y avait des tonnes de poussière, mais en dessous, l'eau était toujours là. Et non seulement, parce que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe, non seulement Isaac a retrouvé toutes les sources et tous les puits, mais il en a creusé d'autres. Il a élargi, on pourrait dire, au plan spirituel, sa vie spirituelle s'est enrichie en passant par ces séquences de sécheresse. J'aimerais te dire que la sécheresse par laquelle tu passes n'est pas pour ta perte, mais que dans cette séquence de sécheresse, tu peux faire l'expérience d'un formidable renouvellement spirituel. Tu peux vivre comme un nouveau baptême dans le Saint-Esprit. Tu peux retrouver le contact avec l'eau. La volonté du Seigneur, c'est que son eau vive jaillisse de notre sein, comme il le dira à la Samaritaine, jusque au moins 3 ans. Oui ou non? Eh non. Jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. Oh, ne répondez pas, mais à quand remonte votre dernier moment personnel de parler en langue? De ce flot merveilleux, vous savez, qui sort. Et quand ça s'exprime, ça m'édifie intérieurement, ça me fait du bien. À quand remonte la dernière expérience où, devant votre Bible ouverte, vous avez été tellement bouleversé par un verset, vous avez pleuré sur votre Bible d'émotion. Moi, j'ai des vieilles Bibles, il y a des taches jaunes. Des taches jaunes. Et vous savez, bon, ça c'est entre vous et moi, ne le mettez pas sur les réseaux. Il y a des taches jaunes, j'ai mis une date, moi, j'ai écrit une date. Parce que je voulais pas oublier que tel jour, telle année, le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, avait bouleversé mon cœur. Là, il y a des traces jaunes dans mes pages de vieilles Bibles, n'est-ce pas? Mais à quand ça remonte? Parce que si je recherche et que je vois une date, 1987, oulala, ben, il y a besoin d'un renouvellement. Dieu veut que l'état de sécheresse ne perdure pas, mais que rapidement mon être soit à nouveau abondamment abreuvé, désaltéré par une onction spirituelle, une communion abondante. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut te visiter ce matin. Amen. Et il ne veut pas que tu restes bloqué au psaume 22. Tu peux passer, mais il faut faire que passer, On peut traverser le psaume 22, mais il faut aller au psaume 23. Vous savez ce psaume 23? Oh, après le psaume 22, il y a le psaume 23. Et ton Dieu veut t'amener au psaume 23. Un des plus connus, un des plus célèbres des 150 psaumes. L'Éternel est mon berger. Ah, ça va mieux, Ça va mieux, Tout à l'heure, ma force se desséchait comme l'argile, mais un miracle s'est produit et maintenant je quitte le psaume 22 et j'entre au psaume 23 Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, les eaux abondantes, paisibles. Il restaure mon âme. Mon frère, ma sœur, entre dans le psaume 23 ce matin. Amen. Laisse le Saint-Esprit te prendre par la main et t'introduire dans les verts pâturages. Reste pas bloqué, enfermé dans cette sorte de bulle obscure et destructrice finalement. Sors de cette bulle qui t'enferme. Entre dans le psaume 23. Réjouis-toi en proclamant cette vérité. L'Éternel est mon berger, oh! Je suis sa brebis, moi! Et le berger qu'il est, il n'y en a point de comparable. Il me conduit dans l'abondance, dans la fraîcheur. Et même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'est pas beau ce psaume ? Ah ben, il est pour toi. Et aussi pour moi. Hein. Il est pour chacun d'entre nous. Ne reste pas bloqué au psaume 22. Mais entre dans le psaume 23. Et avant d'arriver au psaume 150, j'aimerais simplement faire encore une dernière escale. Il fait partie lui aussi des psaumes les plus, comment dire, les plus poignants. C'est le psaume 51. Un psaume de David encore, dans un épisode très très douloureux de sa marche spirituelle. Ô Dieu, ô Dieu, au verset 3, « Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Et puis tout ce psaume qui exprime, et vous savez tous que c'est dans la séquence d'une chute spirituelle et morale avec l'adultère qu'il a commis avec Bathsheba et tout un plan finalement qu'il a échafaudé en toute conscience pour que Uri, le mari de Bathsheba, soit exposé à la mort, lorsque, convaincu par la parole de Dieu, David va prendre la mesure de la gravité de son péché. Et dans la marche chrétienne, il y aura le psaume 51. Le psaume 51 qui correspond à une chute, à un état de péché. Mais Dieu ne veut pas que tu sois bloqué au psaume 51. Que tu sois bloqué sous le poids accablant de la culpabilité qui te gangrène l'âme et qui t'interdit tout épanouissement dans le Seigneur. Il y a le remède au péché, c'est celui de la repentance et de la foi dans une rançon qui a été payée un jour, une fois pour toutes. Nous avons pris ces emblèmes tout à l'heure et ma prière, c'est que nous ne l'ayons pas pris d'une manière routinière et religieuse, mais que pour nous, cette démarche ait été l'occasion, une occasion de plus, pour nous rappeler qu'une rançon suffisante a été payée il y a 2000 ans, afin que nous-mêmes, dans nos circonstances de défaillance, même de péché, nous trouvions un puissant recours de restauration, de justification et de rétablissement de communion avec le Seigneur. Ton péché n'empêche pas Dieu de continuer de t'aimer et de te proposer de placer ta foi dans le sacrifice et dans le tout est accompli de Jésus, afin de ne pas rester sous les coups de l'accusateur. Quelqu'un parmi nous est dans cette situation où l'ennemi se plaît à t'enfoncer par ses accusations. Ça fait partie de son fond intérieur. Il est l'accusateur des frères. Et il aimerait te garder la tête sous l'eau et dans un défaitisme et dans l'impression qu'il n'y a pour toi plus aucun moyen d'espérer. Si ce moyen existe, c'est la grande victoire de Jésus-Christ. À Golgotha, porte tes yeux et là, bénéficie du pardon que Dieu accorde à son enfant repentant. Et tu vas sortir du psaume 51 et tu vas cheminer et tu vas finir par arriver au psaume 150. Et j'aimerais terminer avec ce psaume ce matin. Parce qu'il est merveilleux ce psaume. Et moi, j'ai pas envie d'attendre d'avoir 80 ans pour vivre ce psaume. Moi, je crois que le psaume 150, on peut le vivre aujourd'hui. Il y en a trois qui croient. Trois. Qui est-ce qui le croit? Ah, si, non, il y a un peu plus quand même. Hein? Ce psaume 150, c'est le psaume qui nous permet d'espérer que, par la foi, ce qui va avoir au final le dernier mot, c'est la proclamation de la grandeur merveilleuse de notre Dieu. Ce psaume commence par « Louer l'Éternel !» Malgré le psaume 3, malgré le psaume 22 avec ta sécheresse, malgré le psaume 51, tout ça, tu as traversé, tu as pris la victoire et maintenant tu es là dans la situation d'une évidence très forte. C'est celle de louer. Mais c'est très important, c'est très fort le verbe. J'en ai parlé au mois de septembre ici. En fait, c'est le mot Alléluia. Vous savez, vous rappelez avec les sacs qu'il faut remplir des meilleures productions du pays. Les meilleures productions, c'est les produits Hallel. Et quand on dit Alléluia, Alléluia, on est en train de dire, mais il n'y a rien de meilleur que Dieu. Et que de connaître ce Dieu, de lui appartenir. Donc c'est très très fort. C'est-à-dire que toutes les expressions dont je suis capable convergent vers cette proclamation. Il est le merveilleux et il est merveilleux de lui appartenir. Alors, louer l'Éternel, c'est un mot très, très intense, c'est très fort. En fait, on pourrait mettre une correspondance avec l'adoration. Avec l'adoration. C'est important de dire merci Seigneur. C'est important de chanter un cantique. Mais l'adoration, c'est certainement la forme la plus complète et la plus intense qui nous permet d'honorer ce Dieu merveilleux. L'adoration, ça prend tout mon être. Ça prend tout mon être, mes pensées. Ça prend, bien sûr, mes sentiments, mes émotions. Mais mon intelligence aussi vient adhérer à cette démarche. Tout, c'est écrit, tout ce qui respire. Tout ce que je suis capable d'exprimer, de ressentir, je le fais converger vers cette démarche qui élève mon Dieu. Adorer Dieu. Moi, je prie pour que notre Église puisse entrer dans cette démarche d'adorer Dieu. Voilà. Amen. Ouais. On a chanté tout à l'heure. Hein. Je suis libre, je veux te louer. Eh oui, pour pouvoir louer et adorer dans cette dimension, il faut d'abord être libre. Ah oui, oui. Libre. Il faut être libre. Alors c'est sûr que si ton âme n'est pas pleinement libre, ben il faut d'abord permettre au Seigneur de la libérer. D'enlever tous les paramètres contraignants qui exercent forcément une influence d'entrave sur ton âme. Parce que on ne vient pas toujours à tous les cultes pleinement libre. À moins qu'ici à Aubagne, vous soyez des... Moi non. Je viens parfois préoccupé d'une mauvaise nouvelle que j'ai entendue hier. J'ai reçu un SMS, mon petit-fils, il souffre, je ne sais pas. Ben ça, tout de suite, ça, c'est normal, n'est-ce pas? Mais l'assistance de l'Esprit de Dieu dans ma vie permet que mon âme soit mise en liberté. Afin que aucun paramètre ne m'empêche de m'écrier « Loué soit l'Éternel ». Pensez pas que Paul et Silas, ils auraient pu faire une grosse liste de raisons de pas louer Dieu. Ils ont prêché Jésus et ils ont été rétribués de coups, de menaces, de maltraitances et d'emprisonnement. Frappés, liés, jetés dans le cachot disciplinaire. Et il n'y avait même pas Annabelle là-bas pour s'occuper d'eux, un peu dans cette prison-là. Mais ils avaient mal partout. Ils avaient mal partout, physiquement. Ils étaient roués de coups, moralement. Et même dans ces moments-là, l'ennemi ne manque pas de nous donner quelques-uns de ces mensonges. Ça a servi à quoi, votre prédication, ça a servi à quoi, etc., voyez-vous. Eh bien, ils ont fait la bonne démarche, et j'aimerais imiter leur exemple, et vous inviter à faire de même. Ils ont prié. Paul a dit à Silas, ça va, tu es encore vivant? L'autre... Je suis mourant, mais toujours vivant. On prie. Et ils ont commencé à prier. Et en priant, ils se sont connectés sur le ciel. C'est important, hein, la connexion. Ils sont connectés. Royaumedescieux.com, je ne sais pas comment ils ont fait. Il y a un code, un mot de passe. FOI. Et ça leur a fait du bien de se connecter sur le ciel. Parce que dans cette communion rétablie, il s'est passé des choses. Et vous savez, il y a, frères et sœurs, il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Il y a des prières qui vous démoraliseraient un troupeau d'éléphants, hein. Il y a des prières, je dis, Seigneur, arrête-la, parce que là, elle me déprime. Il y a des prières, c'est que des aveux de défaite. Rien ne va, mais vous attrapez le bourdon, quoi. C'est incroyable. Nous avions une chère sœur, mais quand même, il y a des moments, d'abord, elle priait longtemps, mais c'était, en fait, vous savez, vous avez le journal télévisé, vous, c'est les dernières nouvelles. Ben elle nous racontait les dernières nouvelles de sa famille en crise, et pendant 10 longues minutes. Mais elle nous mettait le moral à zéro. Il y a des prières, non, qui ne correspondent pas à l'inspiration de la foi. La Bible nous dit que c'est la prière de la foi. Celle-là, c'est différent. Voyez-vous? Moi, je suis convaincu que quand ils ont prié, Paul et Silas, ils n'ont pas dit « Seigneur, on a mal, Seigneur, tout va mal, Seigneur, ça c'est... » Non, c'était pas des plaintes, c'était le rétablissement d'une connexion avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et là, il s'est passé des choses merveilleuses intérieurement, c'est que l'Esprit de Dieu a communiqué, Jésus a dit « Il prendra ce qui est à moi ». Amen, hein? Et il vous l'enseignera. L'Esprit de Dieu a communiqué, a déversé dans le cœur de Paul et Silas un encouragement, un regain d'espérance, un esprit de victoire. Et bien vite, leurs prières se sont transformées en louanges. Le psaume 150, il est venu très très vite après. Ils ont loué Dieu. Ils ont proclamé sa majesté. Ils ont fait un duo, mes amis, avec l'onction du Saint-Esprit. Dieu a visité la prison. Les murs de la prison, et c'est pas du B13, ont tremblé. Les verrous ont sauté. Les portes se sont ouvertes. Et le geôlier et toute sa famille ont expérimenté la rencontre avec Jésus. Amen. Le psaume 150, Dieu t'invite à y entrer et à le vivre. Adore ton Seigneur. Amen. Que l'expression de ta bouche ne se réduise pas à une forme insipide, figée, mais que tout ton être tressaille d'émerveillement. Alléluia! Loue le Seigneur! Bénis celui qui a remporté la victoire! Gloire à Dieu! Je lisais hier soir un SMS, ma femme l'a reçu hier matin, d'une jeune de 36-37 ans. Depuis plusieurs années maintenant, elle traverse une succession de maladies, et sa santé se détériore de façon impressionnante. Ça fait plus de 40 ans que je sers le Seigneur, que je côtoie des situations. C'est la première fois que je vois une accumulation aussi grave de détérioration de sa santé, avec des poches extérieures qu'il a fallu greffer avec des... C'est vraiment impressionnant. Et à un moment donné, elle écrit, « Mais je sais que Jésus tient ma vie entre ses bonnes mains. » Ça, c'est miraculeux. Gloire à Dieu. Quel que soit les circonstances qui s'érigeront sur ton chemin, vis le psaume 150. Loue ton Dieu. Ça va réjouir son cœur. Ça va terroriser l'ennemi. Et ça va faire du bien à ton âme. Louez l'Éternel. Louez-le, premièrement, dans son sanctuaire. Tu es le sanctuaire du Seigneur. Oui ou non? Je le suis. Nous sommes les habitations de Dieu en esprit. Et ça doit commencer là, dans le sanctuaire que je suis, sanctuaire dédié au Seigneur. Il doit y avoir cet esprit de louange, alléluia. Et j'aimerais vous dire une chose, si vous venez tous à 9h30, 35, 45, pas 46, 45, là au culte, et déjà, vous êtes chacun un sanctuaire dans lequel la louange est déjà en œuvre, mais mes amis, quand l'addition de tous ces sanctuaires pleins de louanges va s'exprimer dès le premier cantique, là, c'est solide, là, le Seigneur peut faire éclater sa gloire. Est-ce que vous le croyez? Le Seigneur ne le fait pas que en Afrique, que dans des certains pays au loin, mais le Dieu qui est au loin est au milieu de nous également. C'est le même Dieu. Amen. Mais mon frère, ma sœur, tu es un sanctuaire, l'habitation de Dieu en esprit, et c'est dans le sanctuaire que tu es que doit être nourri une vie d'adoration. Amen. Louez-le dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Ah, tenez. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Ça, c'est la norme. Voyez ? La norme. Ma louange doit être en adéquation avec l'immensité de sa grandeur. Quelqu'un est en train de se dire, oh là là, il met la barre très haut, hein. Non, 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 c'est le psaume 150. Mais c'est vrai que nous, les humains, d'une façon culturelle, nous sommes habitués aux petits. Ce qui nous régit, c'est la culture du petit. Du petit. Tiens, ah là là, ce midi, j'ai fait un bon petit repas. Mais je termine jamais sans un bon petit café. Puis je m'autorise un petit sucre. Pour ensuite faire quand même une bonne petite sieste. Ça, c'est le retraité, enfin le faux retraité que je suis. Après ma petite sieste, je reprendrai bien un petit café. Et comme il fait beau, je vais faire un petit tour. Puis, je vais passer une bonne petite soirée avec ma femme. Le petit. Mais dans le vocabulaire chrétien, moi je le constate, ça existe aussi. Un jour, à l'issue d'un culte, il y a une chère sœur qui m'a dit, je ne sais pas si elle voulait m'encourager ou je ne sais pas, je pense que oui, j'espère que oui. Elle m'a dit, pasteur, c'était bien ce matin votre petit message. Et on sort d'une réunion, dit, oh, on a eu une bonne petite réunion, hein. Et le frère chante, il a fait chanter deux beaux petits cantiques. Il a eu un bon petit message. Ah, la petite prière de la petite sœur m'a fait du bien. Eh oui. La culture du petit. Et voilà que j'arrive au psaume 150 et que je découvre le langage de Dieu. Et ce langage me dit, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Dieu, comme un professeur affectueux, patient et compétent, va nous éduquer, nous former, nous transformer, nous rééduquer pour nous sortir de la culture du petit et nous familiariser peu à peu avec le grand, car il est grand. Dans un moment où, de son trône, Dieu a vu son élu, Abraham, un peu démoralisé, le patriarche s'était enfermé au fond de sa tente, comme certains pourraient être tentés de s'enfermer d'une manière ou d'une autre. Alors Dieu vient à son secours. Et Dieu lui dit, Abraham, sors de ta tente et lève les yeux vers le ciel et mets-toi à compter les étoiles des cieux. Et si tu y arrives, telle sera ta postérité. Et Abraham a dû quitter le petit confinement dans lequel il s'était enraciné, et il est sorti et il est entré dans la dimension qui correspond au Seigneur. Je prie le Seigneur pour que quelqu'un entende l'invitation de Dieu adressée personnellement, lui disant « Sors de ton coin sombre. Sors de tes pensées étriquées. Sors de cet espace où tu te confines. » Et c'est dommage. Sors et entre dans la découverte de la grandeur de Dieu. Est-ce que nous nous attendons encore à de grandes choses de la part de notre grand Dieu ? Amen. Est-ce que nous pouvons concevoir que Dieu puisse nous étonner, nous surprendre, nous bouleverser ? Gloire à Dieu. Nous avons tous connu ça. J'ai connu des réunions qui ont commencé d'une manière, je dirais, habituelle. Et puis à un moment donné, Dieu nous a surpris. Jamais on n'aurait pu prévoir ça. Dieu nous a bouleversés. On a vu des personnes. Je revois ce jeune homme musulman répondre à l'appel à la conversion. Il se lève de sa chaise, il se jette à genoux, il s'agrippe à l'avant-bras du prédicateur et en larmes, il le supplie de demander au Seigneur de lui pardonner ses péchés. Ça, c'est grand. Oui ou non ? Mais c'était pour avant. C'était pour ailleurs. Eh bien non, c'est pour aujourd'hui, à Aubagne. C'est le grand Dieu, c'est le même Dieu. Et le psaume 150 m'invite à sortir du petit et à entrer par la foi dans une attente aux grandes bénédictions du Seigneur. C'est la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi, disait le Seigneur lorsqu'on venait réclamer une intervention de sa part. Qu'il te soit fait selon ta foi. Moi, voyez-vous, moi je peux venir, je n'ai pas pris d'ustensile avec moi, mais je peux venir avec un verre de 25 centilitres vers le Seigneur et il va me le remplir. Et je repartirai avec 25 centilitres. Et je peux venir avec un bidon de 5 litres, et il va me le remplir. Je partirai avec 5 litres, et je peux affréter un camion-citerne. Et je vais partir avec des centaines de litres, n'est-ce pas, hein ? Un jour, il y a un monsieur qui a proposé à une petite fille des bonbons. Et il lui a dit, « Vas-y ma petite, prends. » Et la fille a dit, « Non, non, monsieur. » Je préfère que ce soit vous qui me serviez parce que vous avez de plus grandes mains. Elle avait compris que c'est une question de contenant parce que les réserves du Seigneur, elles sont à l'infini. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. Et je prie pour que le Seigneur, par sa parole ce matin, élargisse la foi dans nos cœurs. Et nous rendre capables de nous attendre aux grandes choses du Seigneur, et non seulement de nous y attendre, mais déjà de commencer à le louer selon l'immensité de sa grandeur. À quel psaume es-tu bloqué ? Quelqu'un me dira, frère, moi c'est le psaume 3. Je suis plein de problèmes. Eh bien, ne reste pas au psaume 3. Dans cette pause, sous le regard de Dieu, laisse-toi encourager et relève la tête et prononce ce verset 4. Mets-toi, ô Éternel, face à mes problèmes. Mets-toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Et repars vainqueur. Quelqu'un me dira, moi je suis psaume 22, voyez, je suis trop sec. Mais ne reste pas au psaume 22, il y a le psaume 23. Laisse le Seigneur t'introduire au psaume 23. Qui est-ce qui aimerait vivre le psaume 23 parmi nous ? Deux personnes, trois personnes. Ben, je pense que tous, nous aspirons à ne pas rester et à ne pas nous morfondre dans le psaume de la souffrance récurrente.
Mais Dieu veut nous conduire au psaume 23. Psaume 51, quelqu'un est peut-être bloqué au psaume 51, mais repens-toi et crois dans le pardon qu'abondamment Dieu accorde à son enfant et reprends la route. Retrouve ta joie, retrouve ton assurance, vis à nouveau la plénitude de ton espérance. Et que Dieu nous aide ensemble à vivre le psaume 150. Alléluia. Alors écoutez, dimanche prochain, vous allez tous venir au culte comme des sanctuaires remplis de louanges déjà. Oui ou non? Oui. Et là, vous allez voir, ça va changer le vécu de nos cultes. Dieu voulant, dimanche prochain, vous aurez la joie d'avoir le pasteur Jean Bosco, Kanyandekwe. Et je crois que Dieu a préparé aussi de bonnes choses. Mais déjà, avant de vous rendre la liberté d'écouter peut-être quelques annonces, s'il y a lieu, j'aimerais permettre l'occasion à ceux qui en ont besoin de vivre quelque chose là, là maintenant, ce matin. Les regards du Seigneur sont sur ta vie. Il sait dans quel psaume tu es bloqué. Et si le psaume que tu vis est un psaume de douleur, de culpabilité, de frayeur, d'inquiétude, de fragilisation, que sais-je, le Seigneur veut te secourir là, maintenant. Et il veut te sortir de cet état pour te conduire à la victoire. Amen. Gloire à Dieu. On s'incline quelques instants, s'il vous plaît.